Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le fantastique, le miraculeux, le roux, Julien Vénesson.
Salut Rudy, salut à tous.
Salut Julien, donc première actualité que j'ai oublié de noter, la semaine dernière tu n'étais pas là, tu avais un rendez-vous.
Oui.
Comment s'est passé ton rendez-vous Julien?
J'avais un rendez-vous. Ah, un rendez-vous?
Oui.
Ça s'est bien passé.
Une question que tout le monde se pose. Comment as-tu fini la soirée?
Je sais pas, je me rappelle plus.
Ah bah c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Bon, sans rire. Alors, actualité du moment. Donc, ce week-end, il y avait le colloque de préparation physique qu'organisait la Ligue Rhône-Alpes. Donc, auquel j'ai été voir ce qui se passait. Donc, il y avait notamment Olivier Bollier et Aurélien Broussal qui participent aussi de Super Physique. Ils sont auteurs de plusieurs livres sur la préparation physique qui étaient présents et qui intervenaient. Donc déjà un gros merci à l'organisateur David Chabroux, parce que franchement il y avait réuni 10 personnes qui a 10 entraîneurs de haut niveau qui ont tous été intéressants, sauf une personne. Mais ça on en a déjà parlé. J'en ai déjà parlé avec lui, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de colloque de préparation physique. Moi, je me souviens qu'il y en avait eu quand j'étais gamin à Dijon. Et ça faisait au moins 5-6 ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc là, c'était une bonne initiative de David Chabroux. Et donc, ça s'est vraiment bien passé. Intervenants donc de qualité, qui ont bien mélangé la théorie et le pratique. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Donc, en même temps, il y a une petite aparté aussi. Julien, tu as fait une petite conférence toi aussi dans le Sud.
Oui, j'ai donné un séminaire à Beausoleil à côté de Monaco sur la nutrition, de la performance et de la santé. Donc, c'était très sympa. Beaucoup de gens sont venus. On a passé une bonne journée. Donc, ça a duré de 10h à 19h non-stop. Donc voilà, les gens étaient très contents. C'était vraiment sympa. Il y a eu beaucoup d'échanges. On a passé une bonne journée.
Bon, donc tu vas refaire des conférences, a priori.
Écoute, on verra en fonction de mes disponibilités qui sont assez maigres, mais voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui demandent à participer à ce genre de séminaire parce que je parle de choses qui sont ni dans mes articles ni dans mes livres et voilà, et qui sont pas forcément facilement accessibles, mais d'un autre côté, tout le monde aimerait que je vienne dans sa ville. Donc c'est un peu
ouais, j'ai vu. En fait, personne ne veut se déplacer, c'est bien ça le problème, c'est quand même quand j'avais proposé de faire des stages super physiques, les mecs disaient « Ah ouais, mais là, c'est trop loin. »
C'est ça. Mais là, par contre, dans le sud de la France, il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à faire de la route pour venir. Donc, comme on a senti de la motivation, on a décidé de mettre ça en place. Voilà. Peut-être que si jamais dans le futur, je sens de la motivation dans une autre ville, je le ferai aussi. Mais pour l'instant...
La motivation ne concerne pas que 2 ou 3 personnes. Hein. Il en faut beaucoup.
Ouais. Pour l'instant, je suis pas... Les gens se rendent pas compte que ça demande beaucoup de travail. Il faut préparer... le séminaire et puis mettre en place toute la logistique, hein, trouver une salle, louer la salle, et puis le reste, bon, tout ça, ça se fait pas en 2 secondes et voilà quoi.
Donc voilà. Donc je vais faire une petite actualité aussi sur le concours Super Physique PowerTech de développé couché. Donc là, on a nos premiers participants. On est déjà une petite dizaine de participants. Donc ça démarre fort. On a déjà On a déjà 3 personnes à plus de 20 répétitions à 90. Après, on a pas mal de petits jeunes qui viennent participer. On a pour l'instant une seule fille. Donc, j'attends votre participation, les filles. Donc, ça démarre pas mal. Je rappelle qu'il y a un banc à gagner au tirage au sort. Donc, en même temps, c'est ouvert à ceux qui ont un t-shirt super physique. Donc, en même temps, ça vous permet de... Comme vous avez acheté quelque chose de super physique, vous êtes récompensé avec les tirages au sort si vous n'êtes pas dans les premiers. Puis, si vous êtes dans les premiers, avec nos lots de suppléments. Donc je trouve ça assez sympa. Donc pour l'instant, tous les jours, j'ai au moins une ou deux vidéos à mettre sur le concours. Donc c'est jusqu'au 31 juillet. Donc vous avez encore le temps de progresser. Et donc, petite actualité cinéma. Donc il y avait la sortie de Superman cette semaine, qui est la semaine dernière, mercredi dernier. Donc autant dire que Julien n'a aucun goût cinématographique.
Ah ouais.
Parce qu'il connaît rien du tout au film. Moi, j'ai trouvé Superman très très bien.
Moi,
puisque Superman, c'est lui qui nous a copié en fait sur le logo SP. Et ils l'ont pas dit ça, mais il nous a copié. Bah oui, personne ne sait la vérité, faut bien la dire.
Ouais, certes.
Mais non, sans rire, moi j'ai trouvé le film vachement bien. Et Julien l'a trouvé tout pourri.
Ouais, y a aucun suspense, c'est vraiment nul. C'est de la bonne action, il y a beaucoup de science-fiction, mais...
On est d'accord sur une chose, par contre, c'est que le mec dedans est vachement bien.
Ouais.
On le voit torse nu à un moment, franchement, c'est bien.
Physiquement, il est pas mal, parce qu'ils ont trouvé un gars qui était musclé et qui donnait l'air naturel.
Et puis, il est assez grand, en plus, donc il fait un bon Superman.
Ouais.
Mais moi, je vous recommande d'aller le voir. Hein. Je pense qu'en tant que passionné de musculation... Et donc, de super-héros, c'est un film à aller voir. Même si Julien a des goûts pourris en cinéma. Hein, Julien? Julien, première question pour toi, que t'as fait sur le clavier.
Oui.
Alors, dans ton livre, sur l'assiette de la... ton livre, l'assiette de la force, tu parles de repas post-training. Et souvent, tu évoques le fait que le cholestérol aiderait à renforcer l'anabolisme après un entraînement pour certaines recettes. Mais dans ton premier livre, La nutrition de la force, tous tes plans après entraînement conseillent de la protéine sans graisse. Quelle est donc la meilleure chose à faire pour améliorer la synthèse de la testostérone ou des autres hormones?
Alors, déjà, dans Nutrition de la force, j'ai écrit... Que, alors en fait, je suis en train d'essayer d'ouvrir le bouquin... pour trouver les exemples de programmes, parce que je suis persuadé qu'il y a au moins un exemple qui est sans protéines en poudre après l'entraînement, parce que j'ai expliqué dans le bouquin que les protéines en poudre c'était pas du tout obligatoire et que si on pouvait manger un vrai repas après l'entraînement c'était aussi bien voire mieux.
C'est ce qu'on a dit il y a 2 semaines d'ailleurs.
Exactement, on l'a déjà dit dans un podcast, mais bon, c'est pas grave. Moi, dans l'idéal, je dis que si on peut manger solide, bah, on va manger solide, et si on peut avoir du jaune d'œuf à ce moment-là, on va mettre du jaune d'œuf. Donc, rajouter des lipides à un shaker de protéines juste après l'entraînement, je pense pas que ce soit la meilleure idée, dans le sens où ça va ralentir la digestion un petit peu inutilement, parce qu'en plus, il y aura pas forcément de glucides s'il y a que des protéines. Et puis en plus, faudrait mettre des jaunes d'œufs à ce moment-là. C'est pas forcément idéal pour la conservation. Donc ça me semble.
Tu veux pas mettre un jaune d'œuf dans ta prot?
Non, ça me semble pas le truc que je ferais de prime abord. Mais on peut très bien manger ces jaunes d'œufs au repas suivant. C'est pas grave si c'est pas dans la minute qu'on a ces jaunes d'œufs. Hein. Donc pour moi, la meilleure stratégie, c'est de manger de la vraie nourriture et la protéine en poudre, c'est là pour. Pour la praticité, si jamais on n'a pas le temps de manger tout de suite ou qu'on a beaucoup de trajets pour rentrer à la maison, par exemple.
Mais ouais, c'est pas obligatoire, quoi.
Voilà, ouais.
C'est on pas... avait dit, de toute façon, mieux vaut
ouais.
Manger solide.
Puis alors, dans la question, il était... je sais pas qui c'est qui a demandé, mais il nous parle aussi de mettre du gras pour améliorer la synthèse de la testostérone.
Voilà.
Mais bon, ça n'a aucune importance. Dans le sens où ce qu'il faut pour avoir une bonne synthèse de testostérone, c'est un minimum de lipides sur l'ensemble de la journée. Il n'y a pas de besoin spécifique juste après l'entraînement à avoir des lipides en telle quantité pour avoir un bon taux de testostérone, non. Et puis de plus, j'explique bien aussi bien dans Nutrition de la force que dans l'assiette de la force que le cholestérol contenu dans les jaunes d'œufs n'influence pas le taux de testostérone. C'est pas pour ça qu'il est utile. Hein.
Donc, pour savoir l'utilité du cholestérol, nous avons un excellent article sur le site.
Oui.
Justement, qui récapitule les effets du cholestérol sur la prise de muscle.
C'est vrai.
Écrit par le miraculeux roux Julien Ménesson. J'aime bien ce mot miraculeux, je trouve que ça donne bien.
Merci Rudy.
Donc, question suivante, donc c'est une question d'entraînement. Par rapport à ton premier livre, donc La nutrition de la force. Julien parle dans son premier livre que les fibres de type 1, donc c'est les fibres lentes en quelque sorte, résistent mieux au vieillissement en comparaison des fibres de type 2, donc les fibres rapides, en simplifié. Donc il faudrait dans l'absolu, pour rester énorme et sec longtemps, jusqu'à 80 ans, travailler lourd au début, puis une fois un niveau musculaire atteint désiré, faire de l'endurance et donc allonger son nombre de répétitions. Par exemple, faire 20 répétitions à 100 au lieu de 10 à 130. Donc, il y a plusieurs points dans la question à revoir. Donc, est-ce qu'on reste énorme et sec à 80 ans? Malheureusement, non. Je pense que déjà, moi, j'ai un peu d'expérience. J'ai coaché des personnes de 50, 60 ans. On voit bien qu'à partir de cet âge-là, c'est déjà dur de progresser. Et que si on s'entraîne pas, on perd vraiment pas mal de muscles. C'est pas comme quand on a 20 ans. Donc, de toute façon, on lutte contre la perte, déjà. Ensuite, faire de l'endurance en musculation, bah, ça n'existe pas trop en fait. À moins de rien mettre sur la barre. Mais, par exemple, une série de 20 répétitions à 100 kg, si on est pratiquement à fond, n'est pas de l'endurance et ne va pas recruter majoritairement les fibres de type 1. Donc si on fait un petit rappel sur comment marche le recrutement des fibres, en fait, si l'effort est faible, on recrute les fibres 1, puis plus c'est dur, plus on recrute les fibres 2. Donc c'est aussi simple que ça, donc 20 à 100 ça va être dur, donc au final j'ai recruté aussi bien les 1 que les 2. Donc après Julien, tu voulais faire un petit aparté sur les conseils liés au vieillissement pour maintenir son niveau?
Non, pas spécialement. En fait, ça me fait penser au podcast de la semaine précédente. Ne me demande pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est probablement parce que c'est une question d'entraînement, dans laquelle, avec ton collègue, vous aviez abordé la question de l'entraînement pour être veineux.
Ah oui.
Et j'étais pas du tout d'accord avec la réponse que vous avez donnée.
T'aimes pas ma réponse?
Non, pas du tout. Alors je propose qu'on...
Allez, vas-y.
Qu'on repose cette question au podcast prochain.
Bah non, ça fait tout de suite, allez, vas-y.
Ah non.
Oh, ah oui, vous voulez rechercher des trucs.
Il faut maintenir le suspense pour faire écouter le podcast à nos auditeurs, Rudy, voyons.
Oh là, bon, la semaine prochaine, on se la refait. Mais non, mais de toute façon...
Ah oui.
T'as des mecs qui sont veineux sans rien faire, les sagouins.
Oui, bah c'est sûr qu'il y a une partie génétique, mais je pense que...
Il y a un mec qui m'a écrit justement là-dessus, puis t'as petit aparté encore sur... C'est... Moi, je propose qu'on la fasse maintenant, la question. Mais...
Non, moi, je propose qu'on réponde...
Non, on la fera la semaine prochaine, mais... Vite fait, il y a un mec qui m'a écrit justement aujourd'hui pour me dire « Oui, mais c'est pas totalement génétique, parce que plus t'as de gros muscles, plus t'es veineux. » Oui, mais il en reste pas moins que tu vois des mecs tout maigres avec plein de veines, et puis toi, à côté, t'as les bras deux fois plus gros, et puis t'as deux fois moins de veines. Malgré que t'aies pris des boosters de veino avant, que tu fasses des séries longues, que tu mettes l'autre, que tu forces, ça pas. Alors oui, je suis d'accord que plus t'as un niveau élevé, plus t'as de gros muscles, mieux les veines se voient, mais à condition d'être assez sec. Mais à part ça.
Alors revenons à nos moutons, Rudy.
Ah, il veut pas. Bon. Julien Vénesson est capricieux. Donc pour récapituler. Pour rester énorme et sec longtemps jusqu'à 80 ans, donc on ne reste pas énorme et sec jusqu'à 80 ans. On perd du muscle, de toute façon, même si on s'entraîne à partir à cet âge-là, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a rien à faire pour ne pas perdre, d'un point de vue naturel. Et donc après, l'endurance n'existe pas en musculation, donc allonger son nombre de répétitions ne va pas majoritairement, qu'elle ne va pas ne faire travailler que les fibres 1 et pas les fibres 2, surtout lorsqu'on parle de 20 répétitions. À 100 kg, là on va déjà recruter les fibres 2 sans aucun souci. Donc à moins de faire 100 répétitions à 20 kg, alors là oui, je suis d'accord, on va pas recruter beaucoup de fibres rapides.
Mais cela étant dit, on peut quand même dire que avec l'âge, on est quand même plus fragile au niveau tendineux, articulaire, et que de fait, c'est probablement plus judicieux de faire des séries de 15-20 plutôt que de faire des séries de 5 pour...
Pour non, la mais de toute façon, sur Super Physique, nous conseillons déjà les séries entre 10 et 20 répétitions.
Voilà, mais tout le monde. Coup, ça s'applique d'autant avec l'âge, je pense. Et puis, peut-être aussi, à mon avis, il faut peut-être rechercher un entraînement moins basé sur la force et plus basé sur un volume d'entraînement, par exemple. Ou,
sur le maintien, déjà. Parce que,
ouais.
Là, c'est plus... on va chercher déjà à se maintenir, ce sera déjà pas mal. Si on a 80 ans, nous sommes encore là d'ici là, nous pouvons en parler, mais...
Ah bah Rudy, j'espère qu'avec ta canne, on te verra dans les vidéos super physiques.
J'aurai pas de canne, mais...
T'auras pas de canne, t'auras un déambulateur, et tu nous expliqueras comment pouvoir avancer plus vite avec le déambulateur grâce aux muscles.
Grâce aux triceps.
Exactement.
Alors, donc on a répondu à la question. Julien, j'ai entendu dire qu'il était idéal de boire... Non pas pendant les repas, mais environ 20 minutes avant et 1h30. Tu rigoles ?
Non, j'ai toussé, excuse-moi.
Ah putain, j'ai eu peur. Donc, je recommence. J'ai entendu dire qu'il était idéal de boire non pas pendant les repas, mais environ 20 minutes avant et 1h30 après, pour une meilleure digestion. Y a-t-il donc des moments privilégiés pour boire en fonction de la journée et des repas ? Est-ce qu'il existe vraiment des protéines sous forme liquide ? Ah non, c'est pas le même mec, ça, c'est un autre truc. Non, ça, c'est des... Donc y a-t-il des moments privilégiés pour boire en fonction de la journée ou des repas? J'ai une question en trop.
Excuse-moi parce qu'en plus je vois ce qu'il y a écrit et c'est très drôle.
Je sais pas, tu l'as vu aussi ou pas?
Oui, j'ai vu. Bon, faut peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pas boire pendant les repas? Ce qui traîne, l'information qui traîne sur Internet, c'est que quand on boit en même temps qu'on mange, l'eau prend de la place dans l'estomac et donc dilue les sucs gastriques qui permettent la digestion des aliments. Donc de fait, on digérerait moins bien parce qu'il y a de l'eau dans l'estomac. En fait, c'est pas vraiment juste si on est en bonne santé. En tout cas, la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac et de sucs digestifs, elle est tout à fait proportionnelle à la taille du bol alimentaire, ce qui inclut l'eau. Sinon, on pourrait prendre par exemple un autre exemple et dire que on ne digère pas très bien les fruits et légumes parce qu'ils sont très très riches en eau, comparativement à la viande et qui contient très peu d'eau. Et en fait, non, il n'y a absolument aucune différence, ça n'a strictement rien à voir. Donc le conseil qui consiste à dire ne pas boire d'eau pendant les repas n'a aucun fondement, aucun rationnel biologique, et là, présente aucun intérêt. En revanche, je déconseillerais de boire de grosses quantités d'eau pendant le repas parce que ça ballonne, tout simplement. Et puis ça peut accélérer un peu la vidange gastrique si la quantité est vraiment importante. D'une manière générale, il faut boire quand on a soif. Si on est en train de manger des aliments qui contiennent peu d'eau, c'est-à-dire peu de fruits et légumes par exemple pendant un repas, il est normal d'avoir soif pendant le repas. À ce moment-là, faut boire un petit peu. Et puis à l'inverse, si on mange beaucoup de fruits et légumes, en général, on a moins soif pendant le repas parce qu'on a eu de l'eau déjà qui a été apportée par les aliments. Donc voilà, tout ça se recoupe bien et ça rejoint tout à fait ce que j'explique sur mon site internet. Il y a une vidéo. Quelle quantité d'eau exacte faut-il boire au quotidien? Que je conseille vivement d'aller regarder et qui explique parfaitement quelle quantité il faut boire, quelles que soient les situations. Voilà, Rudy.
Très bien, très bien. Excellente réponse, je suis d'accord, pas besoin de la refaire la semaine prochaine.
Cool. Merci, Rudy.
Alors, question d'entraînement. Donc j'aime bien cette question aussi. Sur une séance avec trois exercices pour un gros groupe musculaire, exemple les pectoraux, comme par hasard, vaut-il mieux faire un exercice de base, un exercice avancé, un exercice de finition, ou trois exercices de base, donc pour la prise de muscle? Donc en fait, on a fait un classement sur Superphysique sur les exercices pour chaque muscle. Donc on les a classés en trois catégories, donc exercices de base, donc les plus efficaces, exercices avancés qui étaient pour travailler plus en détail et qui restaient quand même assez efficaces, et puis exo de finition, donc qui étaient plus pour, comme on dit, finir la séance, être tout gonflé, travailler la congestion, se faire plaisir, quoi. Ou donc trois, donc soit on fait ça, soit trois exercices de base. Donc déjà, c'est une question que je réponds dans mon premier e-book. C'est une question que je réponds donc là-dedans. Et donc, très clairement, on ne peut pas faire trois exercices de base avec pour but de progresser pour le même muscle dans la même séance. Ou alors, c'est très très rare. Donc, je prends l'exemple des pectoraux. Si je fais du développé couché à fond, que je fais du développé incliné à fond, et qu'ensuite j'essaye de faire du développé incliné décliné à fond, et il y a forcément un moment où... Donc là, par exemple, le développé décliné va forcément beaucoup pâtir des deux exercices précédents, et vous allez mettre un poids dérisoire comparé à ce que vous auriez pu mettre, et donc l'exercice va se trouver assez inefficace, d'autant plus qu'en plus, vous aurez les triceps complètement cramés des exercices de base avant. Donc en général, je recommande de faire au maximum, c'est une bonne règle, deux exercices de base pour... Et avant de tousser les malades.
Ah ben je sais pas ce que j'ai, mais...
Donc je recommande, je disais, de faire deux exercices de base pour les gros muscles, et après donc de voir par les exercices avancés, exercices de finition, je suis pas fan donc j'en fais jamais faire, ou presque. Mais c'est comme par exemple, si je prends notre exemple aux cuisses, vous n'allez pas faire squat, squat, squat avant, et puis presse à cuisse. Là vous êtes sûr de mourir, ou presque. Donc je pense que deux exercices de base par muscle est une bonne moyenne pour la plupart, qui nous permettent de forcer assez, et après donc de passer à l'exercice avancé. Donc par exemple pour les pectoraux, ça pourrait donner donc développé couché, développé incliné, donc voilà la base, et après faire un exercice style pull-over ou un écarté avec l'inclinaison que vous désirez. Mais surtout pas trois exercices de base, ou alors vous êtes un mutant si vous arrivez à bien forcer sur chacun des trois exercices sans perte de force entre chaque. D'ailleurs, c'était une des théories qu'on retrouve dans la méthode de la V2, justement, où Michael Gundil conseille justement de ne faire qu'un exercice par muscle. Avec la théorie, justement, que je viens d'énoncer, c'est qu'après un exercice qu'on a fait à fond, on ne va plus avoir assez de force, on va devoir baisser grandement ses charges sur le deuxième exercice, ce qui n'aura pas d'intérêt pour stimuler la croissance, ce qui peut se défendre suivant le niveau de la personne. Personnellement, je n'en suis pas encore là, mais je remarque effectivement que plus j'avance, plus je force, plus je progresse, moins je suis capable de faire d'exercices par muscle. Donc plus je congestionne, plus je perds de force entre les exercices, et donc moins j'arrive. Si les exercices se ressemblent, donc par exemple développé couché, développé incliné, je peux plus les enchaîner avec la même efficacité que si je les fais séparément. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. La petite piste de réflexion à vous, nos auditeurs. Ça te va, Julien?
Tout à fait, c'est très bien. Mais d'ailleurs, ce que tu dis sur le fait que toi-même tu commences à sentir ça sur toi, faut rappeler que tu as quand même plus de 10 ans d'entraînement.
Ouais, je vais arriver à 12 là, bientôt.
Donc ça concerne quand même pas grand monde.
Oh, pas vraiment, mais on sait jamais si. C'est une
Oui.
piste de, ça peut être une piste de réflexion et ça peut arriver avant.
Oui, mais c'est pour. Oui, bah je pense pas que ça puisse arriver au bout de 2 ans d'entraînement, quoi.
Non.
Donc c'est pour ceux qui nous entraînent, qui ont un
Non,
niveau.
Julien, ça ne te concernera pas. Julien va d'ailleurs s'inscrire au Giga Gym très prochainement.
Mon Dieu.
J'ai un élève qui me demandait justement, c'est le Giga Gym, si vous êtes dans le 13e, c'est ça?
À Paris, oui, il est dans le 13e arrondissement.
Donc Julien sera disponible au Giga Gym dans le 13e.
Oui, mais on ne sait pas vraiment
Et
quand.
il s'est acheté une super tenue de sport avec des baskets. Il m'a demandé conseil.
Oui, merci Rudy.
Mais c'est vrai, en plus, il rigole, mais c'est vrai.
Mon coach en habillement, Rudy.
Ah oui, hey, tout ne va pas avec le roux.
Alors Rudy me conseille des t-shirts super physiques avec des serviettes super physiques, sac à dos super physique et des chaussures super physiques.
Ben, j'ai pas encore fait les chaussures, mais je pense que ça se vendra pas.
Ah bon?
Mais un jour, peut-être. On sait
D'accord.
jamais.
Des claquettes?
Les claquettes. Le slip. Le slip super physique. Alors.
Ce serait marrant le slip.
Plus sérieusement, dans un précédent podcast, vous avez expliqué que le thé vert et la caféine permettaient en fait de libérer les graisses corporelles, mais pas de les brûler pour autant. L'utilisation de ces deux suppléments dans le cadre d'une activité cardio à intensité modérée, visant principalement à utiliser les lipides comme énergie, a-t-elle un sens et permet-elle ainsi de brûler du gras?
Bah oui, ça a un plus grand sens, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais d'ailleurs c'est pour ça que la caféine ou le thé vert fonctionnent presque uniquement en conjonction avec un régime, donc en cas de déficit calorique, parce que tous ces acides gras, il faut bien les brûler, et pour les brûler, il faut soit être en déficit calorique, soit faire une activité physique, enfin voilà. Donc c'est une très bonne idée, moi je conseillerais de coupler cette supplémentation à de la carnitine, qui va un peu... agir en synergie avec ce genre de compléments, mais les acheter séparément parce que pas prendre un produit tout fait, sinon les concentrations seront trop faibles. Donc carnitine, thé vert, caféine plus entraînement, c'est sûr que ça fait une petite aide naturelle pour aider à brûler du gras, mais il faut savoir être comment dire objectif et pas en attendre des miracles. Si on a une très bonne diète et que tout est bien réglé, ça va donner un petit coup de pouce qui fera une petite différence, qui peut être significative, si, en particulier si on prépare une compétition ou quelque chose comme ça. Sinon, bah, faut pas oublier que le plus important, bah, c'est l'alimentation, hein.
Donc pour ceux qui veulent savoir tous les secrets pour réussir une sèche, je vous conseille mon e-book, mes secrets pour sécher.
Ah, j'ai cru que tu allais parler de mon livre.
Ah non, je parle du mien, forcément. Ça fait 4 fois qu'on parle du tien là-dedans. Je parle du mien maintenant.
D'accord.
Parce que j'aborde le cardio et quel intérêt du cardio, s'il faut faire du cardio ou pas pour sécher, et les suppléments pour sécher.
Ah, tu parles de la carnitine?
Non, parce que je pense que c'est nul. Je pense que l'effet est proche du néant.
Mon Dieu.
Je pense que t'as bien résumé l'effet de la carnitine dans ton article, les secrets de la force. Les secrets diététiques de la force.
Ah bon? Bah, je me rappelle plus.
Il s'en souvient plus. Ou tu disais d'en prendre justement pour le système nerveux.
La carnitine, oui, mais c'était une forme particulière de
Oui, c'est une
carnitine.
forme particulière. Bah, que j'ai mis dans la boutique justement.
Ah oui, d'accord.
Parce que la L-carnitine, pour ceux qui sont là depuis très très longtemps dans le milieu de la musculation, c'était une
Ah
vaste
oui.
arnaque.
Faut prendre. Bah oui, ça dépend pourquoi, mais enfin, si c'est pour perdre du gras, non, c'est pas une vaste arnaque. Par contre, faut prendre des doses. Faut prendre entre 5 et 10 grammes, quoi, par jour.
Ouais, des doses qu'on retrouve jamais nulle part.
Bah non. Bah faut acheter.
Non, mais 5 à 10 grammes, ça coûte 2 mois après.
Ah ouais. Ah bah écoute, après, c'est. Chacun fait en fonction de son budget et de ses objectifs. De toute façon, c'est aussi pour ça que
Julien
pour.
Vénesson, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah. C'est aussi pour ça que pour la plupart des gens, ça, c'est pas d'un grand intérêt.
Voilà, c'est donc. Bon, Julien,
Donc.
j'aimerais qu'on finisse quand même
Oui?
sur la question de tout à l'heure que j'ai notée sans faire exprès. Pour conclure le podcast,
Ouais?
Julien, est-ce
Vas-y.
qu'il existe vraiment des protéines sous forme liquide pour se piquer? Si oui, est-ce vraiment utile? Donc c'est un jeune qui a vu des gens dans sa salle se piquer et qui l'ont dit que c'était des protéines sous forme liquide.
Ah d'accord, j'avais pas compris la question en fait, je comprenais
Donc en fait
pas.
c'était comme ça.
Eh bien non, ce ne sont pas des protéines, ne tombe pas dans le panneau. Donc en général, si tu vois quelqu'un qui s'injecte quelque chose, ça va plutôt être des produits dopants, ce ne sera pas des protéines. Enfin bon, les mecs font ça dans la salle, ils sont quand même pas très malins.
Ouais, de faire ça dans les vestiaires, hein. C'était assez courant à une époque, et puis après ça dépend de la salle où t'es, hein.
Ouais.
Donc ça m'étonnerait pas trop. Donc sur ce, nous avons fini de répondre à vos questions pour ce soir. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, donc à chaque fois je le dis, mais je le redis sans arrêt, parce qu'en fait vous me posez vos questions partout. Donc vos questions sont à mettre sur le forum, rubrique entraînement, dans le sujet podcast, tout simplement. Ça permet de centraliser les questions, et puis comme ça, j'arrive, et puis ça me prend 10 minutes pour les rassembler, au lieu qu'elles soient un peu partout, et puis que je sois perdu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le bon topic. Et après, bah, on les sélectionne avec Julien, et donc on y répond dans la bonne humeur.
Oui, parce que Rudy, il est rapidement perdu. S'il voit des questions à droite à gauche, il fait des attaques de panique. Donc mettez bien les
Ah,
questions.
dès qu'après, j'ai des trucs à faire, je ne peux pas tout
Mettez
faire.
bien les questions sur le forum pour que Rudy n'ait pas d'attaque de panique, s'il vous plaît.
Là, il faut pas me démultiplier. Comme m'a dit un élève tout à l'heure que j'ai eu en visio, si c'était moi, je ferais 2 journées en une. Bah, sauf que, une journée, ça fait une journée.
Ouais, exactement.
Donc voilà. Donc voilà, dans un souci d'efficacité.
Ok.
Donc, sur ce, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine!
À bientôt!